Comment est-ce qu'on a réussi à sensibiliser? En lisant votre livre, j'ai un petit peu l'impression qu'à chaque fois, il fallait trouver quelque chose qui allait mobiliser l'opinion publique ou qui allait intéresser la société pour les détourner de ce qui ne marchait pas, par exemple. Il y a une phase de consolidation. Donc, au départ, si vous voulez, on avait une sorte de communauté populaire, tout le monde parlait, travaillait ensemble, et qui a donné naissance à un certain sentiment d'appartenance. Ensuite, pour détourner l'attention de l'opinion publique, on leur a dit, mais attendez, voilà, il y a la ligne Maginot, il faut qu'on commence à se protéger des autres pays. Bon, je vous la ligne Maginot, toutes les fortifications qu'il y avait le long de la frontière franco-allemande. Ensuite, la guerre civile en Espagne. Là aussi, on a un peu expérimenté les armes, mais l'Allemagne ne voulait pas se retrouver imbriquée dans cette guerre. Et ensuite, tout ce qui est traité de Versailles, eh bien, ça a été foulé aux pieds. Tout ce qui était à l'ouest du Rhin, vous savez, était démilitarisé, il ne devait pas y avoir de soldats, et Hitler en a mis. Et entre les deux Jeux olympiques, à Berlin et à Garmisch, eh bien, là, Hitler s'est avancé et il s'est dit, bon, ça va marcher pas, mais il y a 30 000 soldats qui ont été envoyés, les autres nations n'ont pas bougé. Et ça a été finalement populaire, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé le traité de Versailles et tous les partis allemands, y compris d'ailleurs le parti communiste, qui en 1932 a réclamé le retour de l'Alsace-Lorraine, donc tout le monde était contre le traité de Versailles. Imaginez un peu, le retour de l'Alsace-Lorraine. Bref, ils se sont parfaitement, finalement, adaptés à cette pensée dominante. Ils avaient leur propre, d'ailleurs, programme juif. Mais bon. Ensuite, l'annexion de l'Autriche. Là aussi, c'était un risque. Parce que lorsque ils en ont entendu parler, le jour où ça s'est passé, ils se sont dit, on va avoir la guerre. Eh bien non, il n'y a pas eu la guerre. En 1938, au mois de mars, on a un petit peu joué à la guerre. En Allemagne, il y a eu la crise des Sudètes, il y a eu des exercices de l'aviation, on a masqué, on a camouflé les toits au cas où des avions ennemis viendraient. On a demandé aux gens d'occulter leurs fenêtres pour qu'il n'y ait pas de lumière. Donc les gens ont été conditionnés. Et les dirigeants, donc en septembre 1933, avant Munich, les dirigeants savaient, parce qu'ils les avaient espionnés leurs conversations téléphoniques, ils savaient que les Tchécoslovaques allaient céder. Et Goebbels a dit, il faut maintenant instiller la peur de la guerre dans la population allemande pour ensuite pouvoir bien s'en tirer. Ensuite, ils ont commencé à expulser des Juifs de Pologne qui n'avaient pas la nationalité allemande, mais qui vivaient en Allemagne depuis deux générations. Et ensuite, quelques temps après, il y a eu un pogrom avec le massacre l'ambassade à Paris. Et ensuite est arrivé Noël.
Memelland zurückgeholt von Litauen.
Et à ce moment-là, on récupère le pays de la Memel, la Prusse orientale. On va à Prague, on occupe Prague, tout se passe bien. Et à peine cela est-il terminé, que ça commence avec la guerre contre la Pologne. Et Hitler dit à ses gens, j'espère que cette fois-ci, il n'y a pas un salaud ou un acrobate des sentiments nous empêche de commencer la guerre. Eh bien, je pense que ça montre d'une manière tout à fait impressionnante ce qui s'est passé. Il y a une citation de Wilhelm Röttgen que j'ai notée. Parle d'un moteur qui tourne et qu'il faut toujours relancer afin qu'il ne s'arrête pas. Et c'est exactement ce que vous décrivez. Et si l'on regarde aujourd'hui autour de nous, on voit évidemment qu'il y a des parallèles, n'est-ce pas, dans la politique actuelle. Le livre est lourd, c'est pourquoi je ne l'ai pas apporté. Mais vous écrivez vers la fin que ce qui s'est passé pourrait très bien encore arriver. Mais vous tenez également à ce que l'on ne regarde pas tout de la même manière, ce qu'on ne compare pas tout de la même manière. Ce que l'on avait dit avec Johann Chapoutou, je voudrais bien approfondir un peu avec vous quels sont les mécanismes, quels sont les comportements qui sont typiques pour cette époque. Qu'est-ce qui pourrait encore aujourd'hui nous amener à reproduire cette manière et abandonner les libertés démocratiques? Eh bien, si l'on compare avec le national-socialisme allemand, je fais toujours attention à voir les différences avec le présent. Et ces différences sont énormes. Si l'on avait une crise aujourd'hui, comme la crise mondiale économique dont j'ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, ça bougerait un peu partout. Alors, ce qui est important pour moi en ce qui concerne la possibilité de répéter, que ça se répète, eh bien, ils ont travaillé avec les moyens qui sont normaux, que nous connaissons. C'est-à-dire, il faut remettre en route les réformes. Quand il y a un problème social, il faut le résoudre, veiller à ce que le milieu de la société, la grande partie, soit à peu près satisfait et ne contredise pas trop, que l'on peut beaucoup amoindrir les problèmes, des choses assez normales. Par exemple, la guerre contre l'Union soviétique, ça change tout en Allemagne, parce que on comprend que c'est une guerre qui peut se perdre. Les gens à la retraite, les vieux qui ont vécu la Première Guerre mondiale savent, oulala, c'est la fin de l'Allemagne, une guerre sur deux fronts, c'est pas possible. Que fait Hitler? Eh bien, il augmente les rentes les retraites de 15%. Ce sont les actifs qui doivent le payer. Si vous réussissez cela en Allemagne, ou en Allemagne, à ce moment-là, vous avez beaucoup de marge de manœuvre. Alors, comment il l'a fait? Les ouvriers forcés dans les entreprises, il y avait aussi les Français, les ouvriers du travail forcé devaient être payés par l'industrie dans les catégories de travail où ils étaient employés. Un électricien français devait en Allemagne aussi travailler comme un électricien allemand, mais il n'a jamais vu l'argent. Il n'a jamais été payé au même niveau. Donc il devait acheter son matériel et puis il devait payer une double cotisation dans les caisses de retraite, de maladie, etc., sans pour autant avoir droit à des prestations. Et aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, lorsque les gens touchent 15% de retraite davantage de retraite, ils ne demandent pas d'où vient cet argent. En Allemagne, tout au moins chez vous, c'est peut-être différent. Donc, il faut bien comprendre cela. Ils n'ont pas inventé des merveilles. Ils ont fait des choses tout à fait normales. Et c'était aussi autoritaire. Il y avait aussi un certain terrorisme, si vous voulez. Je l'ai calculé avec des étudiants de Francfort, compte tenu des condamnations à mort du tribunal du peuple qui était particulièrement sévère. Et nous avons surtout vu les crimes qui étaient commis contre les Allemands du Reich. Et nous avons constaté que 95% des condamnations à mort pour des raisons politiques contre des Allemands du Reich, il y avait aussi des Tchèques et des Alsaciens, contre les citoyens du Reich normal, ces condamnations ont été faites après le 1er janvier 1942, avant seulement 5%. Et c'est-à-dire, on n'avait pas besoin de ces condamnations à mort politiques au début, jusqu'à la guerre contre l'Union soviétique, tout au moins, parce que le pacte germano-soviétique avait paralysé un peu les protestations. Eh bien, je pense que ça, c'est une très bonne manière de parler maintenant d'un autre aspect dont nous devrions également parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le milieu démocratique et comment se présentent les différents pays et les différents partis? Ça, c'est une question qui nous préoccupe aussi beaucoup aujourd'hui.
Les partis ont été interdits au fur et à mesure ou bien se sont autodissous d'ici 1933. Le patrimoine des partis a été nationalisé. Et on a dit, eh bien voilà, on va tous maintenant aller dans la même direction. Mon père est né en 1912. Je vous ai parlé de lui. Et lorsque j'avais 10 ans, je l'avais accompagné pour aller voter. Il m'a expliqué le gouvernement, les élections, le système démocratique. Et moi, il m'a dit, mais moi, je trouve ça bien que tout le monde vote de la même façon et puis gouverne ensemble. Bref, du coup, ça marchait pas mal. Ça a été plutôt bien accepté. Mais ce qui est intéressant, sachant qu'on n'a pas vraiment de sondage d'opinion objectif, mais si vous prenez en 1935 le référendum dans la Sarre, qui était géré par plusieurs pays, dont surtout la France, mais le sort des Sarrois était nettement plus favorable que les autres citoyens. Ils avaient le franc, leur situation économique était bien meilleure et au départ, leur situation était réellement enviable. Le référendum était prévu, donc après le traité de Versailles, il y avait une sorte d'organe allemand qui avait été élu, qui n'avait pas vraiment de pouvoir législatif, qui pouvait exercer une influence sur l'organisation. En 1935, conformément au traité de Versailles, il y a eu un référendum, c'était pour la France ou pour l'Allemagne. Et il y avait aussi une troisième solution. Et les communistes et sociaux-démocrates, là, étaient d'accord. On leur disait, bon, on fait rien, et puis on attend que Hitler soit plus là. Et lors de ces élections, les communistes et les sociaux-démocrates, on savait qu'il y avait des partis qui avaient été interdits, il y avait des gens qui avaient été assassinés, tout ça, ils le savaient. Hein. Mais là, il y a l'immense majorité qui a voté pour l'Allemagne et plus de 2/3 des électeurs communistes et sociaux-démocrates ont voté pour le rattachement à l'Allemagne alors que les partis avaient fait campagne pour la troisième solution. Et le chef des sociaux-démocrates autrichiens, Karl Renner, qui a été le premier chancelier d'après-guerre, donc de la Première République autrichienne, a fait campagne pour l'annexion avec l'Allemagne. Et ça n'est pas d'ailleurs le seul social-démocrate autrichien qui était pour l'annexion. Et Hitler a organisé cette annexion, il avait annoncé cela à l'avance, et il a travaillé avec la Banque centrale allemande pour établir un taux de change, 3 Schilling autrichiens contre 2 marques. Ce qui représentait une appréciation de 40% du Schilling autrichien. En d'autres termes, les Autrichiens, après l'annexion, avaient 40% de plus de pouvoir d'achat. Alors ce sont des moyens tout à fait primitifs, mais ça marche. Ça marche toujours. Hein. Et pour la RDA, lorsque la RDA a fait sa transition, ça a été exactement la même chose. Donc il y a une certaine expérience. Et c'est pour ça que c'est finalement reproductible. C'est pas qu'il y a une idéologie nazie. C'est pas non plus qu'on a des fureurs de ce type. Ça n'a pas forcément à voir avec les Juifs. C'est pas ça. Mais imaginez un petit peu des dirigeants radicaux avec des arguments destructeurs, il faut que tout change, ces anciens, ces vieux partis, ils n'y arrivent plus, en plus ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et maintenant il faut tout recommencer. Et les Français sont difficiles à gouverner, mais les Allemands se sont rapprochés des Français, maintenant nous aussi. Mais bref, mais ça renforce de tels mouvements, de telles forces. Avant de passer la parole au public, j'aurais essayé de vous confronter à des critiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais dans la Jüdische Allgemeine, dans ce journal, j'ai lu un article qui disait que l'antisémitisme n'était pas suffisamment traité dans votre livre, alors que c'était le péché originel. Qu'en dites-vous? Que pensez-vous de cette critique? Les Allemands se sont laissés appâter, finalement. Et au fond, l'antisémitisme fondamental, essentiel du Troisième Reich, vous n'en avez pas beaucoup parlé. Alors, c'est effectivement un point intéressant. Tout d'abord, lorsque j'écris un livre, je ne répète pas tout ce que j'ai dit dans les ouvrages précédents. Et l'antisémitisme, j'en ai déjà parlé. Et d'ailleurs, j'ai participé à la publication d'une série de 16 ouvrages avec Ulrich Elbert qui ont traité l'extermination des Juifs par le régime nazi. Je le répète, ça a été traité dans 16 volumes qui vont bientôt être traduits en anglais. Enfin, la plupart de ces volumes sont déjà disponibles en anglais, bientôt ils le seront tous. Alors, l'antisémitisme. Il faut savoir que dans les campagnes électorales, c'est quelque chose qui n'a jamais été employé contre le NSDAP. On a critiqué le NSDAP, mais pas à cause de son programme anti-juif. Or, pourtant, dans son programme, il y a de l'antisémitisme. Mais pourquoi? Parce que l'antisémitisme était présent dans toutes les couches de la société en Allemagne. On dit, mais c'était l'antisémitisme, c'était preuve des nazis. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il était omniprésent. Et l'antisémitisme allemand, on le trouve à gauche, on le trouve dans les milieux libéraux, on le trouve dans les milieux catholiques, alors avec des nuances, bien sûr. Mais c'est quelque chose de pas très fort, parce que les Juifs polonais, ils préféraient aller en Allemagne. Ils pouvaient suivre des l'éducation supérieure, etc. Alors, ensuite, il y a eu bientôt des réformes. Enfin, vous savez qu'il y a eu des réformes avec le code Napoléon. Quand on voit tout ce qui est éducation, on avait effectivement l'éducation, la prospérité, le patrimoine. Et effectivement, les Juifs étaient plus éduqués, ils étaient plus prospères, et donc il y avait une certaine jalousie, il y avait une envie. Et lorsqu'on est jaloux de quelqu'un, on ne dit pas « non, non, mais moi je suis jaloux ». On dit « non, non, mais lui, il n'a pas les mains propres, il est escroc, moi, je réfléchis plus, je mets plus en trompe ». Bref, les Juifs étaient beaucoup plus éduqués, et sur le plan économique, ça marchait. Ça marchait, ça c'est quelque chose qui se mesure. Et il y a beaucoup d'Allemands qui avaient ce comportement. Oui, vous savez quoi, ils sont tout de même, on les voit trop, on les entend trop, et puis si on leur rabat un peu le caquet, ce ne sera pas plus mal. Bon, alors il y a une crise économique, ça j'en ai parlé dans mon livre. Et en 1933, on les a privés d'emploi à Berlin. Alors, de toute façon, il n'y avait pas d'embauche, il n'y avait que des licenciements à cette époque, mais à Berlin, dans les services des écoles, il y a tout d'un coup 1000 ou 1200 jeunes instituteurs qui sont arrivés parce qu'on a viré les Juifs. Et 15 à 20% des professeurs d'université ont également été expulsés. Et on les a remplacés par des Ariens, terme de l'époque. Mais attention, ces gens-là, c'était pas tous des nazis. Ceux qui ont remplacé les juifs, ils ont sauté sur l'occasion. Pareil pour les universités en RDA. On avait des professeurs d'université ouest-allemands qui se sont précipités parce qu'ils n'avaient plus de poste. Ils se sont précipités en RDA et ce n'était pas pour se venger de Honecker, c'est juste parce qu'ils ont sauté sur l'occasion. Et l'exclusion des juifs s'est faite de façon très progressive. Voilà, on ne les connaissait plus, les juifs, ils venaient de l'Est. Et la population s'est habituée. Il y a beaucoup de juifs qui sont partis, qui ont émigré, mais ce qui est vraiment tragique, c'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer, c'est que là où il y avait vraiment un antisémitisme très dur dans les villages, les petites villes, souvent, eh bien, les juifs ils sont partis pour aller en Palestine ou aux États-Unis. Ça, c'était en 1935. Et il y a eu une migration également de ces petits villages vers les grandes villes, parce que c'était anonyme, et plus les voisins allemands étaient gentils avec les juifs, plus ils ont aidé à les tuer, tout simplement parce que la pression de l'immigration a baissé. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Oui. Donc moi, ce que je décris, c'est cette transition. C'est vrai que ce n'est pas un livre sur l'antisémitisme. Il y en a suffisamment. J'ai également déjà abordé ce thème dans d'autres ouvrages. Mais là, je parle d'une transition. La transition d'une communauté nationale qui marchait bien, prospère, à une communauté de criminels. Et j'ai également mentionné la guerre avec l'Union soviétique. Les exécutions en masse. Les meurtres de masse. Alors, les stérilisations de 350 000 personnes, 5% des femmes qui étaient stérilisées mouraient, sans compter l'euthanasie. Et les gens, ils acceptaient finalement. Du coup, les dirigeants se sont dit, ça marche. Ensuite, il y a eu la guerre. Alors, les criminels de guerre en France, bon, là, il n'y avait pas encore eu vraiment de crimes de guerre. En Pologne, oui, mais à une petite échelle. Et ensuite, il y a eu la guerre contre l'Union soviétique qui a démarré. En 6 mois, à partir de 1941, les soldats ont exécuté 900 000 juifs par arme à feu. Et il y a des centaines de milliers de prisonniers soviétiques qui ont été affamés, ils sont morts de faim, ils ont été tués. Et même chose pour des centaines de milliers de civils et autres, ça pouvait être des présidents de kolkhoz et autres. Et chaque jour, 12 000 personnes qui n'étaient pas des combattants mouraient sous le feu des Allemands. Et là, on avait une armée de 3,5 millions d'hommes et ils savaient tous ce qui se passait. Et ça, ça n'était que le début. À l'automne, la propagande s'est intensifiée et là, on a dit soit on vaincra, soit on mourra, soit on disparaîtra. Et on a dit aux Allemands, si les autres l'emportent et qu'ils font avec nous ce qu'on nous leur avons fait, il ne restera plus aucun Allemand et plus rien de l'Allemagne. Et dans la troisième partie de mon ouvrage, je parle de l'appréciation et du traitement subjectif de tout cela. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir passer au débat avec la salle. Il y a encore quelque chose qui m'est venu à l'esprit lorsque vous avez parlé de l'antisémitisme. Il y a Hannah Arendt qui a dit que le problème, ça n'était pas nos ennemis, mais nos amis. C'est ça qu'elle a dit lorsqu'elle est retournée en Allemagne. C'est exactement ce que vous avez dit, finalement. Qui a une question, une critique, une observation?
Sie sprechen von Anfang an von einer...
Vous avez parlé d'une sorte de communauté populaire, communauté nationale, qui s'est transformée en communauté de criminels, si je vous ai bien suivi. À votre avis, comment est-ce que dans cette communauté nationale qui n'était pas homogène, il y avait des anards, des communistes, des libertaires, etc. Comment est-ce que dans cette communauté nationale, il n'y a eu que peu ou pas d'empathie par rapport à quelque chose qui s'est produit dès le début, finalement?
Ja, also die, Also die
Cette exclusion, elle existait. L'exclusion des Juifs, qui a été acceptée dès le départ dans de très nombreuses couches de la population. Alors il y a des fois, les gens n'étaient pas forcément d'accord, mais ils n'ont rien fait. Et plus tard, ils en ont profité. C'était organisé comme ça. Concernant maintenant les communistes et les sociaux-démocrates, la résistance a été bien moins forte qu'on ne le pense. Et le nombre des personnes qui ont été persécutées, bon, en 1935, il y a bien sûr eu des gens qui ont été envoyés dans les camps de concentration, mais en 1935, il y avait 3500 détenus politiques, c'est tout, en Allemagne. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la SAR, pour essayer de vous expliquer le comportement des partis communistes et social-démocrates, les acquis sociaux, etc. Et il disait, bon, effectivement, là, ça marche pas trop mal entre les différentes classes sociales, mais vous avez parlé des anarchistes. Alors, il y avait des anarchistes, mais il y avait également des homosexuels, mais ils se sont pas tous retrouvés dans les camps de concentration, il y en a eu beaucoup trop. Mais si vous voulez, c'était des groupes qui étaient un petit peu marginaux, mais qui étaient tout de même acceptés. N'oublions pas non plus à quel point ils avaient des œillères. Je ne sais pas si vous imaginez maintenant, mais en 1932, le NSDAP, donc le parti nazi, donc, a publié une affiche. On y voyait l'Allemagne dans ses frontières. Et vous voyez également, il y avait des gens qui arrivaient de l'Est, donc c'était en 1937, ils avaient des grandes oreilles, le nez crochu, enfin bref. Et vous savez ce qui était sur cette affiche? Eh bien, depuis 1919, 13 sont 13 juifs sont venus chaque jour. 13. Donc vous imaginez, enfin 13 personnes par jour. Donc, essayez de vous remettre un peu à cette époque. Pour nous, c'est quelque chose de totalement inimaginable maintenant. Donc, cette communauté, cette Volksgemeinschaft nationale, c'était une sorte de sentiment. Et les observateurs sociaux-démocrates l'ont parfaitement bien décrit. Willy Brandt, par exemple, en Allemagne, disait « mais les gens ne sont pas pour, mais ils ne sont pas non plus contre ». Vous savez qu'à l'époque, ils se cachaient, enfin, ils n'opéraient pas sous son nom propre. Et dans Mein Kampf, Hitler a dit, répété des choses, il a dit « voilà, là on a une masse, c'est la masse du centre, avec trois catégories ». Alors tout à fait en haut, les dirigeants, les gens comme lui, donc la caste noble, si, la caste noble. Et ça, et là, il faut essayer de la soigner, de la faire prospérer. Ensuite, le centre et le comportement politique de cette masse, du milieu, va dépendre de l'habileté des dirigeants. Et en bas, il y a une sorte de marais social avec les asociaux, les juifs, les communistes irrécupérables, c'est ça que dit Mein Kampf, et il faut lutter contre ces gens, et ça a fonctionné. La majorité de la population allemande a accepté, avec quelques mesurettes, on va dire.
Hier vorne, der junge Mann.
Le jeune homme devant.
Ja, vielen Dank.
Merci. Au début, vous avez parlé des églises assez brièvement et de l'énorme différence entre les électeurs protestants et catholiques sous la République de Weimar. L'euthanasie, l'encyclique du pape et les catholiques allemands se sont toujours opposés au régime nazi et l'ont toujours manifesté, ils l'ont toujours dit. Et il y a eu le problème, c'est que même si... Qu'est-ce qui a changé finalement avec le national-socialisme? Alors cette encyclique qui a été formulée par le pape et avec le cardinal de Munich qui était très conservateur et les évêques allemands est un texte qui a été publié en Allemagne, ce qui était très très rare. Le Vatican a d'abord publié cette encyclique en allemand, ensuite en latin, et il est mentionné effectivement le régime nazi. Il se prononçait contre cette doctrine des races, et sans citer personne, il disait que l'Allemagne était prise de folie. La résistance est catholique. Alors, des religieux, mais également des fidèles et des prêtres dans les villages. C'était quelque chose de plus difficile à maîtriser pour le NSDAP. Ils arrivaient moins à maîtriser les catholiques que les communistes. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi tout de même à les mettre au pas ? J'y ai consacré un chapitre, ça a été très très simple. Ils ont instauré une commission sur l'homosexualité et les abus contre les enfants, avec une immense campagne. Donc une commission de la Gestapo avec un procureur spécial à Koblenz, avec un battage médiatique, des arrestations, des condamnations, etc. Et ça a duré 2 ans. Et vous savez, les gens, ils aiment bien, paf, on a des procès, on montre des photos, il y a des cloîtres. Et vous savez, il y avait à l'époque beaucoup d'orphelinats, de maisons pour les mutilés de guerre, etc. Et une campagne phénoménale. Voilà, regardez, on pêche dans les cloîtres, des orgies homosexuelles, etc. Et surtout, par exemple, lors de fêtes religieuses qui devraient être sacrées. Enfin bref, il y a également eu des articles qui ont paru dans la presse. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Où est-ce qu'il t'a touché, etc. Mais vous savez, les gens, ils adorent lire ce genre de choses. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Regardez Epstein. Il y a eu un discours prononcé par Goebbels, un très très long discours. Oui, ce sont vraiment des horreurs, on doit lutter contre, ils corrompent notre jeunesse. Et le président de la conférence des évêques et le vicaire général, ils ont dit à Hitler, bon, attendez, on va arrêter. En fait, arrêter les procès, arrêter les poursuites, tous ceux qui n'ont pas... il y a d'ailleurs eu des suicides parmi des laïcs, des prêtres, des religieux. Et les nazis ont vraiment frappé là où ça faisait mal. Ils ont trouvé le défaut de la cuirasse et ça a marché. Également, quand vous pensez au prêche de Galen, c'est le seul qui a prêché contre l'euthanasie. Alors plus tard, il y a eu quelques autres personnes qui se sont également prononcées contre l'euthanasie. Alors sachant que les protestants ont également protesté, mais ils ne l'ont jamais fait publiquement. Ils ont envoyé des courriers aux dirigeants et c'est seulement après 1945 que ces écrits ont été publiés. Et Galen, lui, a vraiment réussi une prouesse. Mais, si vous voulez, le problème, c'est qu'ils avaient peur d'un effet domino. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le régime nazi était un régime faible. On aurait pu, en allant du côté rhénan, on aurait pu les stopper, on aurait pu le faire en franchissant le Rhin. Et Galen, lui, il a dit non, non. Il a dit aux gens, mais vous savez ce qui se passe. Vous savez qui est expulsé, qui va être... acheminé dans un camp, etc. On vous dit que votre voisin, il est mort d'une infection pulmonaire, mais vous savez parfaitement qu'il a été assassiné. Alors, ensuite, vous savez qu'il y a eu également 60 morts dans l'incendie d'une cathédrale suite à un bombardement. Et il a dit, non mais, ce qu'il a dit... c'est que c'était une peine juste, du Dieu juste, contre un État qui avait toléré des crimes. Et c'est ça qu'il a dit. Et lorsqu'il y a eu d'autres bombardements par les Alliés, il dit, voilà, c'est Jésus au Temple, et il n'y aura plus une seule pierre de cette ville qui restera si vous continuez. Et devant Galen, les gens ne savaient pas forcément quoi faire. Et cette, il a prêché pendant 4 semaines. Il a dit qu'on devait arrêter les massacres dans les chambres à gaz, les meurtres. Il y avait déjà la guerre avec l'Union soviétique. Il savait que ça allait mal tourner. C'était à l'été 40. Il a dit, il faut arrêter tout cela. Le régime nazi a compris qu'il ne pouvait pas arrêter l'évêque Galen. Et il n'y a eu, à part Galen, aucun évêque, qu'il soit catholique, protestant, etc., qui s'est montré à la hauteur. Et s'il y avait 100 personnes qui s'étaient dressées comme lui, mais il n'y a rien qui s'est passé et personne n'est intervenu. Voilà, donc ça c'est le beau peuple allemand.
Von Galen interessiert.
Oui, si vous vous intéressez au cardinal von Galen, Bodo Fehrenbach, qui a un peu de la famille, a écrit une biographie absolument remarquable. Il vit ici à Paris. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Hallo, vielen Dank für Ihren Vortrag erstmal.
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre exposé, Monsieur Ali. Mais vous avez parlé des circonstances économiques tout à l'heure, surtout au milieu, aux alentours de 1938, parce que vous avez dit que Hitler a contracté des dettes énormes et ensuite il a dû récupérer cet argent sur les Juifs, etc. Alors je me demande si cela n'a pas encore réduit un peu cet antisémitisme à l'aspect économique, parce qu'après la crise économique, les gens se portaient mal et les partis des travailleurs, ce qu'ils étaient, ils ont essayé, ils ont réussi à améliorer un peu la situation des gens, mais il fallait un élément unissant, parce que quand les gens se portent mal, je suis d'accord, on est plutôt égoïste et on se préoccupe très peu de son voisin. Mais dès que les gens se portent un peu mieux, il ne faut pas peut-être trouver quelque chose d'unissant qu'on a trouvé dans le national-socialisme? Non, je ne crois pas que la question juive et la persécution des juifs ait été un élément primordial que cet État, dans cet État avait besoin. Il s'agissait d'abord de déposséder les juifs de leur métier, ensuite de leur argent. Et finalement, ça a quand même assez bien fonctionné en France aussi, si je peux me permettre cette comparaison. On avait un gouvernement de collaboration, les occupants étaient les Allemands, et les Juifs ont été dépossédés dans tout le territoire francophone, aussi dans les colonies. Et tout le monde a participé. Et généralement, ces biens ont été vendus de Français à des Français. Et le profit, ça a été vendu à la place des petits frères, en face de la Banque nationale. Donc là, on vendait ça et le profit était encaissé. Aux Pays-Bas, ça a très bien marché. En Belgique, non. En Grèce et en Hongrie aussi, ça a bien marché. Et ça n'a rien à voir avec le national-socialisme. C'était des mesures... C'était possible de le faire. Alors, on l'a fait. Je comprends à peu près ce que vous voulez dire. Je ne parle pas non plus d'idéologie nationale-socialiste. Je le dis expressément ici, parce qu'on dit oui, c'était l'idéologie nationale-socialiste, mais on ne connaît pas suffisamment les détails pour savoir ce qu'ils ont fait. Non, non. Moi, je dis cette augmentation des retraites de 15%, pourquoi cela ne figure dans aucun texte sur le national-socialisme? Pourquoi n'est-il écrit nulle part que les actionnaires ont été forcés en 34? Je sais. Quelque part, on a toujours cette idée dans la tête des historiens que la faute, la culpabilité, c'est la persécution des Juifs. Et puis on voit aussi que les entreprises qui ont profité des travailleurs forcés, certes, c'est les entreprises qui ont profité, mais les Allemands aussi, les Allemands tout simples, ils ont travaillé ces ouvriers forcés dans les fermes, dans les petits commerces. Et je pense que c'est important de tenir compte de cela aussi. Une question supplémentaire, si vous permettez, mais alors brièvement. Mais alors, la solution finale, comment se place-t-elle dans cette logique? Eh bien, la réponse était lisez le livre. Je pense que là, nous avons la preuve d'une vertu allemande qui, j'espère, je crois, n'a rien à voir avec Hitler. À moins que M. Ali ne me corrige, mais peut-être que vous voulez profiter de cette douce soirée. Et vous voulez peut-être acheter les livres. Et si vous ne savez pas lire l'allemand, si vous ne comprenez pas l'allemand, eh bien, la traduction est en route. Alors, faites un peu attention quand la traduction va paraître. Je n'ai rien à ajouter après cette discussion. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose que vous ayez également apporter votre expérience personnelle, vos recherches personnelles, votre histoire. Les historiens allemands se présentent souvent un peu comme s'ils n'avaient pas d'intérêt personnel, pas d'histoire de famille, mais on voit que Die Zeit et le Spiegel ont vraiment fait appeler beaucoup de gens à cette possibilité de consulter les archives pour voir si la famille a été impliquée dans le national-socialisme. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Merci beaucoup, Madame Wiegel.
Bleiben Sie noch jetzt da oder gehen Sie nach Hause?